L'invité du soir dans la belle antenne.
Mathieu Catoni, bonsoir et bienvenue au micro de la belle antenne.
Bonsoir.
Alors Mathieu Catoni, tu es le directeur du festival Les Pluies de Juillet. La 9e édition du festival se tiendra du vendredi 17 au dimanche 19 juillet prochain. Et cette 9e édition, elle marque un tournant dans l'histoire du festival car vous déménagez. Dorénavant, le festival se tiendra à Champrepu dans la Manche. Alors c'est jamais évident de changer de lieu quand on travaille sur l'identification, la reconnaissance d'un événement. Mais je crois que l'équipe du festival a pu être rassurée car le public semble vous suivre. Il y a quelques mois, vous avez lancé un appel à soutien pour les pluies de juillet et bah, on peut le dire, le soutien, il a été au rendez-vous. Est-ce qu'on peut revenir sur cet appel à soutien, Mathieu Catoni, et s'inscrivait dans quel contexte et qu'est-ce que ça a apporté?
Oui, carrément. Peut-être sur le changement de lieu, dire qu'on change de lieu, mais on va vraiment pas très loin, on va à 3,5 km, on est dans le même... intercommunalité, en fait on reste exactement sur le même territoire et même d'un point de vue presque géographique, on est même sur avant on était un petit peu plus loin sur la route et là on est un petit peu avant en se rapprochant de Villedieu, quoi, la ville centre de Villedieu Intercom, quoi. Donc il n'y a pas de grand changement pour le public et ça je pense que les gens du coup qui venaient au festival l'ont bien compris, on n'est pas parti à 25 km non plus pour pas mal de raisons. La première c'est qu'on y est attaché à cet endroit, la deuxième c'est qu'on travaille avec beaucoup de bénévoles qui sont de cet endroit là et que le projet il s'est développé là et que le changement de lieu il était pas lié à une mauvaise entente avec la mairie précédente ou un mal-être sur ce territoire là mais juste là qu'on avait l'opportunité en fait de rassembler les activités de l'asso dans un même lieu donc à Champrépu qui est le siège social en fait de l'association. Et donc nous c'est aussi un moyen de voir à plus long terme parce que les champs qu'on va investir sont des champs qui appartiennent à quelqu'un et qui fait partie du bureau de l'association, le président de l'asso. Et donc pour nous c'est une manière aussi de on peut voir un petit peu plus loin et ça fait le lien en fait avec la campagne. C'était pas vraiment une campagne de soutien, en tout cas nous on l'a pas voulu comme ça, c'était vraiment une campagne de précommande. En gros on a fini l'année dernière comme pas mal de festivals, ça a été une édition assez tourmentée on pourrait dire. La raison à ça c'est qu'on a eu une météo assez catastrophique pendant 3 jours, ce qui nous a pas vraiment aidé, donc assez fatigué avec le constat que le site où on était, au-delà de cette question de la visibilité à long terme, il était aussi très compliqué en termes de production, notamment quand il y avait une météo assez catastrophique comme celle de l'an passé. Et donc on a décidé de simplifier pas mal de choses. Ce changement de lieu a été un des points. Et on a lancé donc une espèce de grosse campagne de précommande auprès de notre public en leur disant bah, « nous, on a besoin d'avoir de la visibilité aussi sur le plan financier. Et on a besoin de voir aussi combien de personnes nous font confiance pour monter cette prochaine édition du festival et un peu porter aussi ce changement de lieu. » Et donc on a fait un mois de campagne de précommande quoi, sur une plateforme qui s'appelle Ulule et qui a carrément bien fonctionné. Hein. On a récolté un peu plus de 31 000 euros. Mais qui ne sont pas que des dons. Enfin, il y a des gens qui ont fait des dons en plus, mais la plupart, c'est des gens qui ont acheté des places. Quoi. Nous, ça faisait partie des contreparties. Et donc c'est pas considéré comme un don, c'était considéré vraiment comme de la vente de billets. Donc on avait une base de public où on savait ce public allait venir et c'est ce qui nous a permis d'ancrer cette édition et puis nous de se mettre ensuite à travailler plus sereinement pour ces derniers mois pour monter toute la programmation quoi.
Alors cette année, elle a été assez forte en vie associative et en réflexion, tu viens de le dire. Oui. Forcément, on découle une édition des pluies de juillet assez singulière et que vous aimez décrire comme utile et originale. Est-ce que tu peux développer un peu ces qualificatifs que vous employez?
Utile, parce que je pense que ce qu'on défend au quotidien, mais comme plein d'autres associations et festivals, c'est un projet qui est utile. Utile pour le territoire, parce que c'est important d'avoir des événements associatifs, culturels, de taille intermédiaire comme les nôtres, donc qui font venir un public local, mais pas que. Donc ça, je pense que c'est utile, parce que ça crée du lien, ça fait une activité économique, c'est un espace de diffusion pour des artistes. Et utile aussi parce qu'en journée, on porte pas mal de sujets, mine de rien, autour des sujets socio-environnementaux, à travers nos différents espaces de conférences, d'ateliers, de radio, à travers pas mal de propositions qu'on offre à notre public. On est un espace de rencontre où les gens peuvent... apprendre à, faire du pain, ils peuvent échanger, réfléchir lors d'une conférence, participer à un atelier de radio, participer à un atelier de cirque. Donc je pense qu'on a notre utilité en tant qu'événement culturel, déjà pour la diversité de l'activité culturelle au niveau territorial. Et original, parce que justement on essaye de croiser un maximum de choses dans la programmation. Cette année on fait de la musique, on fait de l'art de rue, on fait du théâtre, je le disais, on a une radio qui fait quasiment 9 heures d'antenne par jour. On a une programmation avec je sais plus combien d'ateliers il y a, mais il y en a quasiment toute la journée pour tous les âges, une programmation de conférences. Donc on croise vraiment différentes pratiques, différents savoir-faire aussi, pour avoir la programmation la plus qui puisse toucher le plus grand nombre de personnes possible. Donc on a un public qui peut être très jeune, on a vraiment des enfants qui viennent chez nous et on est ravis de les accueillir. Et on a des publics aussi plus âgés qui viennent chercher autre chose, des formats plus descendants aussi. Donc on croise les formats, on croise les outils de médiation pour avoir un événement qui puisse vraiment toucher la société au sens large, quoi.
Et ça a toujours été ça, les Plus de Juillet, ça a toujours été proposer des concerts, mais autour de ça, ce sont des réflexions, des activités, et justement ce croisement de public dans un seul et même lieu.
Ouais, c'est ça, et avec aussi l'idée de dire que, évidemment, personne n'est obligé de participer à tout ça. Enfin, on a aussi des gens qui viennent, ils viennent au concert en journée, je sais pas, ils vont à la mer, ils vont se promener, ou alors ils restent sur le site, mais ils participent pas forcément à des conférences. Les gens parfois nous renvoient cette image-là. Enfin, nous, on propose, hein, on n'oblige personne, quoi. Donc, mais oui, il y a toujours eu cette volonté-là de proposer des choses en journée, d'être riche, et aussi dans le but d'avoir des festivaliers qui viennent assez longtemps aussi. Et je pense que la bonne expérience pour quand même plus jouer, c'est d'au moins y passer deux jours, parce que c'est ce qui permet de découvrir un petit peu toute la programmation, toutes les propositions, et aussi de se rendre compte de tout le travail qui est fait toute l'année par une équipe dans la programmation. Il y a une grosse équipe de bénévoles qui travaille là-dessus, et de la qualité de la programmation, c'est quand même assez fou. C'est vraiment des bénévoles qui s'investissent, qui s'améliorent avec le temps, qui ont toujours des nouvelles idées, et c'est assez remarquable, ouais.
Alors Mathieu Catoni, je propose de faire une première pause musicale avant de parler plus en détail de cette programmation, aussi bien dédiée à la journée qu'à la nuit, avec un artiste qui, lui, vient de la pointe ouest, il vient de Brest, et on va écouter son morceau emblématique, justement, Brest, mais attention, une version qui a été revisitée sur son dernier EP, avec une dimension plus électronique. On écoute Brest de Miossec, tout de suite sur Radio Phoenix.
Est-ce que désormais tu me détestes? D'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse. La rue de Siam, c'est nuit d'ivresse. Ce n'est pas par manque de politesse, juste l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espèce? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que l'âme puisse cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse. toi aussi ça te bouleverse, ces quelques cendres que l'on disperse. Est-ce qu'au moins aujourd'hui quelqu'un te berce?
C'était Brest de Miossec à l'instant sur Radio Phoenix, avec une dimension plus électro, un morceau revisité sur son dernier EP. Et si je diffuse ce soir, c'est pas pour rien, c'est que Miossec fait partie de cette programmation pour la 9e édition des Pluies de Juillet. Il sera retrouvé le vendredi 17 juillet dans la Manche, à Champs-Prépuis exactement. Et on en parle de cette 9e édition justement avec Mathieu Catoni, directeur et programmateur. Alors Mathieu Catoni, on va dire quelques mots sur cette programmation musicale. 17 concerts en tout, entre le vendredi soir et le samedi soir. Comment est-ce qu'on réfléchit tous les ans à une programmation originale en termes de musique pour les Pluies de Juillet?
Alors déjà, il faut que je dise que je ne suis pas le programmateur. C'est le président de l'asso qui fait la programmation,
oui, c'est vrai,
des Pluies de Juillet. Mais par contre, moi, je participe évidemment à la programmation. Avec, c'est un travail assez collaboratif, en fait. Freddy, en l'occurrence, prend contact avec beaucoup de tourneurs et tout ça pour avoir en fait, une idée des disponibilités, des prix et de ce qui tourne sur l'été. Et ensuite, nous, on travaille, on est quand même un petit pool de personnes à donner notre avis, avec pas mal de critères différents. Nous, on est attaché à ce qu'il y ait une vraie diversité de genres musicaux qui soient représentés, ce qui correspond en fait à notre public aussi. On a envie qu'il y ait des gens un peu plus âgés qui puissent s'y retrouver, des gens plus jeunes. On pense aussi que c'est un des rôles des Pluies de Juillet. En tout cas, nous, on défend cette vision que les festivals doivent être des lieux de découverte et pas forcément un lieu où on offre au public ce qu'il attend de voir au départ. Je pense que ça, c'est important aussi de le dire. Donc, on a ce critère-là de la diversité des genres. On a aussi des critères un peu d'avoir l'égalité homme-femme. Là, je pense qu'une programmation, je suis pas sûr qu'elle soit paritaire. Je pense qu'il y a plus de femmes en lead cette année. C'est toujours plus compliqué après quand on regarde les musiciens, mais en tout cas, on fait quand même vraiment attention à ça. Mais notre objectif, pas d'atteindre 50-50 tous les ans, c'est pas l'enjeu, mais d'avoir une représentation qui soit logique au regard de ce qui est produit tous les vendredis en termes d'albums dans les musiques actuelles. Et ensuite, on essaye effectivement de réfléchir aussi à une programmation où on va avoir un mélange entre des têtes d'affiches un peu plus nationales. C'est le cas de Miossec, c'est le cas de Pomme. Donc là, c'est plutôt deux têtes d'affiches qui sont plutôt axées chansons. Donc là, typiquement, quand on va réfléchir à la suite de la programmation, on va vouloir avoir des choses peut-être un peu plus énergiques, un peu plus rock, un peu plus électroniques, histoire d'avoir cette diversité et qu'une personne qui vienne au Pluies de Juillet sur la soirée, par exemple, de Miossec, puisse voir un concert de chansons, un concert de rock, un très bon DJ set, un concert de rap, pourquoi pas.
Ou de pop rappé, avec Asfar Shamsi, par exemple.
Avec Asfar Shamsi. Et donc, l'idée, c'est de... Nous, on a deux scènes qui ne jouent pas en simultané. Donc, c'est toujours un concert, puis un autre concert. Donc, les personnes vont aller voir un concert. Soit elles vont arriver et trouver que le concert est génial et elles vont rester. Soit ce concert-là, elles vont un peu moins l'aimer. C'est pas grave, elles vont aller dans notre... espace bar, restauration, boire un coup, enfin, et puis tout est... On est un festival à taille humaine, on accueille à peu près 2000 personnes par soir maximum, donc il y a un côté très familial, très doux, donc souvent les gens, ce qu'ils aiment au Pluies de Juillet justement, c'est cet aspect découverte, et ils vont moins aimer un concert, donc ils vont aller boire une bière, ensuite ils vont aller voir ce concert d'après, ils vont trouver ça super, et je trouve que là on touche un peu à nous ce qui est notre rôle, c'est de proposer sur scène des artistes qui nous-mêmes nous ont convaincus. Et nous, on a la connaissance de ce qu'est notre public, et donc on essaye de pas forcément programmer des choses qu'on aime bien, mais des choses qu'on imagine vont être un bon moment au Pluies de Juillet, ce qui n'est pas exactement la même chose. Moi, j'écoute pas forcément tout ce qui est programmé au Pluies de Juillet, mais par contre, quand j'écoute la programmation, je me projette toujours dans ce que ça pourrait rendre au Pluies de Juillet et comment le public va pouvoir vivre ça. Et on est très, on est content de ça, et je pense que ça, au fur et à mesure des années, parce que mine de rien, le festival il est pas si vieux que ça quand même. Et on arrive à aussi être identifié par ce prisme-là, être un peu à l'anti-festival. Mais c'est pas contre, c'est vraiment une autre proposition que tous les festivals de genre qui vont se développer, notamment dans les musiques électroniques, dans le rap, ou alors les méga machines à Caen comme Beauregard et tout ça, où il va y avoir des gens qui vont venir pour voir deux, trois artistes très bien identifiés. Moi, je dis pas du tout que c'est pas bien de faire ça, mais il y en a déjà beaucoup des festivals qui font ça, et nous on essaye de construire un chemin un peu différent de celui-là, un peu comme ce que pourrait faire Chauffer dans la noirceur ou même les Biches, où on se rapproche plus un peu de cette direction artistique, quoi.
Oui, et ce qui est marrant, c'est que dans un contexte où le public, enfin on le sait, se déplace en festival pour voir souvent des têtes d'affiches, que c'est de moins en moins la découverte qui séduit le public de festival. Vous, au Pluies de Juillet, vous arrivez avec une proposition tout à fait originale qui, on a compris, mêle les formats, à faire venir 2000 personnes par jour, et ce depuis 9 ans.
Alors, on a pas toujours réussi à faire venir 2000 personnes par
c'est
jour.
C'est venu crescendo, quoi.
Cette année, j'espère qu'on sera 2000. Mais nous, on est quand même des festivals où on n'est pas forcément complet. On n'est pas complet 6 mois à l'avance. Et on ne l'est d'ailleurs souvent pas la semaine d'avant non plus. Parce que, bah, il faut se battre, justement. Il faut aller chercher le public. Il faut convaincre. Et en fait, on essaye aussi beaucoup de convaincre les gens de la qualité du festival. On croit beaucoup dans le bouche à oreille. Donc, les choses augmentent progressivement année après année. Mais on est très patient parce qu'on a conscience que, bah, voilà, on joue pas cette carte de. On a une artiste qui va nous permettre de tout vendre, c'est pas notre enjeu, quoi. Mais par contre, on fait le pari de. On accueille très bien les gens. Donc les gens qui viennent, ils ont envie de revenir ou alors ils disent du bien de notre festival. Je pense qu'ils voient aussi toute la transparence et l'aspect engagé de l'événement. Et même si c'est pas la première raison pour laquelle les gens vont à un événement, c'est une raison pour laquelle les gens vont avoir de l'attache à un projet. Ils voient aussi tout le projet associatif et ils voient que c'est pas du chiquet, quoi. Ils voient vraiment qu'il y a des gens, ils ont un autre métier, une vie, ils ont une vie de famille parfois, et ils donnent quand même du temps pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, voire toute l'année, pour faire vivre un événement comme le nôtre. Et ça, je pense qu'il y a un moment, il y a un ressenti, il y a quelque chose qui se passe, et que ce soit dans notre recherche de bénévoles ou dans notre capacité à faire venir puis revenir du public, ça, on constate que ça fonctionne bien, mais parce qu'on ne fait pas semblant, je pense que ça aide pas mal.
La semaine dernière, à ce micro, on recevait l'organisateur d'un tout nouveau festival. C'était la deuxième édition de La Boom, qui se tient à Blainville dans la Manche. Et on leur posait la question de, voilà, c'est quoi l'envie première de monter un festival dans la Manche? Et c'est quoi les obstacles et les complications qu'on peut rencontrer quand on monte un festival dans ce département? Toi, Mathieu, comment est-ce que tu répondrais à cette question après 9 ans d'existence?
Ben déjà, je l'ai un peu dit, mais je pense qu'il faut être patient. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'il faut avoir une proposition qui soit singulière. C'est-à-dire que nous, par exemple, au sein des Plus de Juillet, on est sur un modèle qui est... On s'autofinance à peu près sur le festival à hauteur de 65%. On a à peu près 25% de subventions publiques et à peu près 10% de partenariats mécénat privé. Donc, ces 25% de subventions publiques, on pourrait pas faire sans, mais je pense qu'on les a aussi obtenus avec le temps parce qu'on avait une proposition qui n'était pas le copier-coller de ce qu'on pouvait voir ailleurs. On est sur un territoire où il n'y avait pas d'autres festivals sur Ville du Intercom en tant que tel. Et donc tout ça fait qu'on a, on est arrivé avec une proposition un peu singulière qu'on a assumée. On a écrit un projet autour de ça qu'on a évidemment amélioré avec le temps. Mais donc déjà ça, on a rencontré des gens qui sont grâce à ça. Donc je pense, voilà, ne pas vouloir faire exactement la même chose que son voisin, même si son voisin il fait des choses qui fonctionnent très bien, je pense que c'est quand même une bonne idée, même si parfois c'est des chemins qui sont un peu longs. Un petit peu de temps, et puis à un moment savoir s'entourer aussi, et ne pas avoir peur de l'aspect associatif, mais au contraire réussir à en faire une force. C'est-à-dire qu'un festival, c'est quand même c'est difficile de faire ça seul dans son coin. Je pense que c'est un collectif et il y a vraiment une force dans le collectif, dans nos événements, je trouve. En tout cas, nous, au Plus de Juillet, avec le temps, on a vraiment réussi à développer cette partie-là. Ce qui fait que non seulement ça nous a permis de développer d'autres activités dans l'asso parce qu'on a gagné du temps sur le festival, et en plus de ça, ça a vachement enrichi le festival parce que c'est ce que je disais sur la programmation en journée. C'est le fruit d'envies très variées et collectives avec des gens qui ne pensent pas forcément la même chose, ont des goûts différents. Et donc, bah nous, dans notre volonté de toucher large, bah du coup, si les personnes qui programment un peu large, bah forcément, il y a un effet où on représente plus facilement des pans un peu larges de la société. Et ça, bah, c'est possible parce qu'on a ce réseau de bénévoles et de ce qu'on appelle des responsables de pôle, même s'ils sont bénévoles chez nous, qui est hyper riche pour le projet, quoi.
Eh bien, on espère que Mathis, organisateur de La Boom à Blainville dans la Manche, nous écoute et a entendu ton message, et que tous les organisateuristes de festivals en région Normandie t'auront écouté.
Je me garde bien après de faire de donner des conseils aux gens. Voilà,
Alors pour revenir à la programmation musicale, on va balayer un petit peu les noms qui sont à l'affiche. Donc on rappelle 12 concerts et DJ sets sur 2 jours. Ça commence le vendredi 17 juillet avec Washa, un groupe de latin, funk, afrobeat et pop. On enchaîne ensuite avec Asfar Shamsi, qui est là pour le coup chanson pop rappée et qu'on aura l'occasion d'écouter en deuxième partie d'émission en interview. Miosek, Lynx IRL, qui elle propose du rap jungle mélodique qui vient de Lille. Uji Freya, punk hip-hop, Twende Pamoya, de l'électro afro-fusion, et Louis Petrouchka, un DJ set pour finir de 1h45 à 3h du matin. Et le samedi 18, on retourne danser avec Bonne Nuit, De la pop électro énervée à partir de 21h, Pomme avec bien sûr son style pop folk indie, il y a aussi le rappeur Yanis, et puis la soirée continue avec Jasmine Nodjafar, le duo Tourangelle à ne pas manquer, et Violet Indigo en DJ set pour finir aussi jusqu'à 3h du matin, donc ça danse assez tard au plus de juillet aussi.
Ouais, les journées sont longues en fait. Donc c'est aussi la, on est obligé, voilà, c'est aussi pour ça que notre organisation associative aide, parce que bah ça nous permet d'être, moi je peux pas être là tout le temps quoi, parce que sinon je ne dors plus, même j'essaie d'être là un maximum sur le festival, mais ça c'est une de ces forces là. Et après oui, ça, bah nous on considère que quand les concerts démarrent, il y a quelque chose d'assez libérateur qui se passe aussi, je pense. Les gens, tout le monde a fait un peu plein de choses différentes en journée, puis on se retrouve, quoi. À ce moment-là, on a, c'est ce que je disais, les scènes ne jouent pas en même temps, donc il y a un effet de... Tout le monde se retrouve. Souvent, les gens ont passé des journées assez intéressantes où ils ont fait des trucs un peu rigolos, donc forcément, les gens ont envie de discuter, ils sont de bonne humeur, et donc il y a un effet assez... très positif qui se met en place à ce moment-là et qui fait du bien. Et après, plus la soirée avance, plus on essaye d'avoir des artistes qui vraiment font danser sur scène. Beaucoup de live. On essaye de limiter un petit peu les DJ sets aussi, pas parce qu'on n'aime pas ça. Enfin, on est plein dans l'équipe à écouter beaucoup de musique électronique et tout ça, mais parce qu'on est attaché au fait d'avoir une proposition live. On monte des scènes qui ont capacité d'accueillir des musiciens et on trouve ça chouette. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de propositions dans ce genre-là. Et puis, ouais, on finit à 3h du matin. Il y en a qui trouvent que c'est tôt. Hein.
Trop tôt. Alors, un rappeur qui vous fera danser à tous les coups, c'est Yanis, qui lui est très fort en live. Et je propose de faire une pause en écoutant son morceau Emoticon, extrait de son dernier album, D&D. C'était Emoticon de Yanis à l'instant sur Radio Phoenix. Yanis, un rappeur programmé au plus de juillet, à retrouver sur la scène le samedi 18 juillet prochain. Mathieu Catoni, on a parlé de la programmation musicale. On l'a dit aussi, les plus de juillet, c'est beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres. Est-ce qu'on peut peut-être rapidement aussi balayer les temps forts de ces journées au plus de juillet pour la 9e édition?
Alors, un temps fort qui est nouveau cette année, c'est qu'il y a une fois par jour, on organise des spectacles. Donc, il y a... un spectacle de théâtre art de rue par jour, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc c'est Larzac, Jogging et Kayas dans l'ordre. C'est pas forcément des spectacles qui ont... À part Larzac qui parle de sujets environnementaux, Jogging et Kayas, c'est plutôt des spectacles qui font réfléchir sur la société, mais qui n'ont pas forcément de vocation à réfléchir sur un sujet politique. C'est plutôt des spectacles grand public qui peuvent toucher petits et grands, quoi, qui sont assez drôles. Donc c'est... On avait vraiment, nous, à cœur de proposer... cette nouvelle forme artistique au plus de juillet, parce qu'on trouve que ça collait bien aussi à ce format et l'année du changement de lieu et tout ça, c'était la bonne année pour proposer cette nouveauté. Et puis après, on a un cycle de conférences avec une de nos conférencières les plus connues cette année, c'est Monique Pinson-Charlot, qui est une sociologue assez connue, qui a beaucoup travaillé sur le partage des richesses, on peut dire, gentiment on pourrait le dire comme ça. On a un nouvel espace qu'on a appelé l'Imaginarium, qui est un espace où il va y avoir à la fois un peu de médiation, du yoga, des lectures de contes, où on essaye de croiser un petit peu, qui est un espace un peu de bien-être, on va dire, au sein du festival, où les gens peuvent se poser, et c'est assez doux, et on a une programmation qui va accompagner un petit peu ça toute la journée. Beaucoup d'ateliers, et moi, une des choses que j'aime beaucoup dans la programmation des ateliers, et j'en parle un peu à distance parce que c'est pas moi qui les... Je programme pas cette partie-là du tout, c'est qu'ils arrivent toujours à croiser à la fois des aspects un peu de sensibilisation, un peu de réflexion, ou même de découverte, par exemple, de la biodiversité, ce genre de choses, avec des choses très concrètes. Cette année, il y a un atelier sur apprendre à mouler son fromage, il y a un atelier pour apprendre à fabriquer son pain... Il y a un atelier pour apprendre à réparer ses chaussettes. Enfin, je veux dire, et c'est un peu nous, notre volonté, c'est d'avoir... On n'a pas envie de se prendre trop au sérieux non plus. Et la programmation des conférences, elle est hyper intéressante. Et il y a vraiment des intervenants et des intervenantes qui sont pointus. Mais il n'y a pas que ça au plus juillet. Il y a aussi d'autres choses qui sont beaucoup plus liées à l'éducation populaire, à des choses beaucoup plus... où il y a moins besoin de réflexion, où il va y avoir beaucoup plus d'accompagnement. Donc en fait, si vous êtes fatigué après deux conférences, vous pouvez tout à fait aller apprendre à réparer vos chaussettes, et c'est très bien aussi.
Et surtout, moi, un rendez-vous que j'adore, c'est le dimanche 19 juillet. Donc pour clôturer la dernière édition des pluies de juillet, vous finissez traditionnellement par justement le bal trad. Ouais, donc ça, c'est vraiment le rendez-vous phare aussi qui met fin aux rendez-vous les pluies de juillet.
C'est ça, on n'a pas de programmation le soir, le dimanche soir, mais par contre ça fait 3 ans qu'on organise ce bal, depuis 2023, ouais. Et c'est vraiment devenu un super moment aussi pour l'équipe, les bénévoles, les personnes qui ont travaillé sur le festival et le public qui est là. En fait, à ce moment-là, tout le monde danse ensemble et c'est un peu la force du côté bal, quoi. On a une personne là qui s'appelle Victor Duclos qui va être là et qui va lancer la danse, expliquer les pas et tout ça. Et puis ça nous permet de toucher aussi un autre genre musical qu'on n'aurait pas forcément touché sinon. Et c'est souvent un moment hyper très touchant aussi pour ça. Et qui fait. Voilà, c'est une manière de se dire au revoir en douceur, quoi.
Oui. Oui, puis il ne faut pas avoir peur si on ne sait pas danser. Donc, il y a quelqu'un pour nous apprendre.
Non.
Donc, il y a un petit tuto danse avant de se lancer tous ensemble.
Non, moi, pour ma part, il faut que quelqu'un m'accompagne pour danser. Donc, oui, évidemment. Enfin, ce n'est pas du tout réservé aux initiés, quoi. Pas du tout.
On rappelle, toute la programmation des pluies de juillet est à retrouver sur le site internet du festival pluiesdejuillet.org. Il y a la programmation journée et la programmation nuit. Niveau billetterie, Mathieu, on est comment là pour la 9e édition ?
Tu veux dire en termes de remplissage ?
Exactement. Est-ce qu'il reste encore des places ?
Il reste des places, ouais. Samedi, il en reste, mais c'est la soirée qui part le mieux. Il nous reste des places pour le vendredi, même si ça part aussi. Il nous reste un petit peu de passe 3 jours. Ouais, c'est des passes 3 jours chez nous, mais oui, il en reste aussi un petit peu. Donc, il reste des places. Et j'espère qu'il en restera moins à une semaine du festival, mais non, il en reste encore. Qu'est-ce que je peux dire de plus ?
Et pour se rendre à Champrépu, de Caen, on prend la voiture, on fait du covoiturage, il y a d'autres moyens de transport en commun.
Et malheureusement, il n'y a pas trop d'autres moyens de transport en commun depuis Caen. Hein. C'est quand même un truc assez scandaleux quand on y réfléchit bien. Mais,
dans la Manche.
Ouais, non, mais il n'y a rien, quoi. Entre Caen et Villedieu, il n'y a pas. Donc, il y a une ligne de train qui va jusqu'à Villedieu depuis Granville ou depuis Paris, avec toutes les gares sur ce trajet-là. Où là, nous, on organise des navettes depuis cette gare-là. Depuis Caen, on conseille le covoiturage. On va lancer, dans les prochains jours, une espèce de petite plateforme pour que les gens puissent covoiturer facilement, s'organiser, qui sera la plateforme pour le festival. Et puis sinon, on organise des trajets à vélo. En fait, on a depuis 3 ans, on organise ce qu'on a appelé des transhumances à vélo, où on met à disposition des traces qui ont été effectuées par des gens de l'équipe des Pluies de Juillet, qui sont très jolies. Enfin voilà, quoi, c'est des trajets à vélo que nous on a testés et validés, tamponnés, disons. Et donc il y a des départs qui sont organisés depuis Caen, depuis Rennes, depuis Cherbourg, depuis Coutances, depuis Granville, depuis Vire et depuis Argentan. Si je dis pas de bêtises, je crois avoir fait le tour. Et donc là, on va mettre pareil à disposition des tableaux. Les gens qui partent peuvent indiquer leur départ et donc il y a d'autres gens qui peuvent les rejoindre, un peu sur le format de l'auto-organisation. Mais c'est aussi une manière de mettre un petit peu plus de temps à venir jusqu'au festival, mais en passant par des paysages qui sont très beaux et puis de se faire des amis avant de venir, quoi. Ce qui peut être pas mal.
Donc on invite bien sûr tous les festivaliers et festivalières à faire du covoiturage. On rappelle, les pluies de juillet, la 9e édition, ça se passe à Champrepu dans la Manche du vendredi 17 au dimanche 19 juillet 2026 et il reste des places. Donc pour toute information, il faut se rendre sur le site du festival pluiesdejuillet.org. Et Mathieu Catoni, je propose qu'on se quitte avant de retrouver Asfar Shemsi en interview avec un morceau de la rappeuse lilloise Lynx IRL avec son dernier single Focus, tout de suite sur Radio Phoenix. Merci beaucoup Mathieu Catoni d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invitation.
Encore dans ZF comme une DZ. Normal, je suis une DZ, y'a plus rien à faire, sans faire bouffer le cerveau. Ouais, j'ai envolé votre taf, gratter les Z. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce monde de singes? Je m'enfonce dans le canapé sous le poids des nouvelles. Partout où je quitte, tous ces membres, c'est dead.
Mais vas-y bouge ton cul, elle lève ta tête et puis casse ton cul. Elle lève ton berge, va leur dire qu'on se tire. Baisse leur guerre, c'est à la tâche qu'on tue. Frassant les regrets et les dettes d'hier. Y'a beaucoup de trucs qu'on sait pas encore. Mais si on s'écoute, on peut tomber d'accord. Peut-être que papa s'y tôt dans le type hier. J'fais mieux, j'confonds un restier. Le mec moyen mérite pas d'estime. Une bombe le torse, le mec investi. Mais ils y errent comme un iPad baby. Guerre mondiale ou guerre intestine. J'écoute Sim, j'écoute Affect. Y'a personne à convaincre, tu sais qu'on sait qu'ils savent très bien ce qui se passe en Palestine. J'reste focus, j'fais pas de paroles que des notes à moi-même. 5-9, l'île sud, j'cause des fissures depuis le fond de la mer. Oups, j'ai encore confondu un ministre, il me pompe à merde. J'suis venu pour tout prendre comme Mao Jacob, pas comme Israël. Baby j'reste focus, j'fais pas de paroles que des notes à moi-même. 5-9, l'île sud, j'cause des fissures depuis le fond de la mer. Oups, j'ai encore confondu un ministre, il me pompe à merde.
Je reste focus.